page 15. Sur cette page, il faut avant tout regarder les repères qui vont rester sur toutes les pages du manuel. Il y a une frise grisée en haut de la page qui donne l'alphabet dans l'ordre officiel du dictionnaire. C'est l'ordre moderne qui date d'il y a une dizaine de siècles. Cette frise donne en blanc les lettres qui ne sont pas encore vues et en foncé, les lettres sont programmées pour le chapitre en cours ou qui ont déjà été vues. Alors ici, il y a, pour le premier chapitre, la première semaine, il y a 6 lettres qui se trouvent au début et vers la fin. L'ensemble de l'alphabet est repris, regroupé comme s'il formait un seul mot. Et on y voit apparaître des ruptures. Après la première lettre, après quelques lettres qui se trouvent presque au milieu, la 8e, la 9e, la 10e, la 11e, et après l'avant-dernière lettre. Autrement, toutes les autres lettres s'accroche à la lettre suivante. Ensuite, on voit en encadré le tracé de chaque lettre, mais il vaut mieux regarder la vidéo qui porte le titre de les mots de la première semaine. Et il faut respecter le sens de tracé et quelques éléments. Par exemple, la ligne de base et la verticalité de certaines lettres. Il ne faut pas essayer d'écrire dans le style italique, par exemple. Il ne faut pas déformer les proportions des lettres, sinon on risque d'avoir une écriture peut-être jolie, mais difficile à comprendre. Ensuite, on trouve sur cette page 5 lignes qui sont le premier contact avec l'écriture arabe. Si vous avez bien lu l'introduction et ce qui est précisé sur l'écriture, normalement tout paraît évident. Alors voyons, la première ligne, ne cherchons pas le sens des mots. Si on regarde, tous les mots se terminent de la même manière. Et ça se prononce « i » à la fin. Tous ces mots comportent une lettre sous forme d'un trait vertical suivi d'un espace. Ça se prononce A. Donc on va entendre dans cette ligne des mots presque semblables, mais il y a des consonnes qui changent. Et c'est l'observation de ces changements qui nous permettent de découvrir les premières lettres et les premiers sons en arabe. Alors, le premier mot à droite, c'est Tati, Tati comme le magasin que tout le monde connaît. Tati, on remarque qu'il y a 2 × 2 points. Donc ça doit être la même lettre. Et c'est l'équivalent du T, T comme Thérèse. Dans le deuxième mot, c'est un seul point qui apparaît 2 fois. Et c'est Nani. La première lettre, c'est comme le N. N comme Nadine. Nani. Troisième mot, c'est une lettre sans point. L'alphabet arabe comprend beaucoup de lettres avec 1 point, 2 points, voire 3 points. Pas comme le français qui n'a que le I et le J. Donc en arabe, si un point manque, on ne peut pas lire. Mais c'est pas le cas en français. Si on voit le mot jour sans le point, on le devine quand même. Journal, impossible. Si le point manque, on comprend quand même le mot. En arabe, non. Le point est indispensable. Donc, on doit bien observer où placer le point, pas trop près des traits, pas trop loin, pas trop gros, pas trop discret. Et le troisième mot, donc, sans point, on entend la prononciation de « mami ». « Mami ». Et on comprend que la première lettre, qui se trouve aussi en troisième position, c'est le mim, l'équivalent du M, mami. Et alors, un mélange avec le quatrième mot, Mani. Mani. Mani, si on veut un sens à ce mot, il faut savoir que c'est le nom du fondateur du manichéisme qui se voulait une nouvelle religion au IIIe siècle et qui a prospéré un moment, mais qui a finalement été balayé par l'islam à partir du VIIe siècle. Ensuite, Tani. Tani aussi est un mélange entre le premier et le deuxième mot. Donc, Tani, on l'entend dans le dialecte égyptien, Tani, ça veut dire un nouveau, de nouveau, deuxième, etc. Ensuite, Mali. Mali, avec une nouvelle lettre qui apparaît après le A. Mali, c'est un trait vertical, seulement ce n'est pas un A. Pourquoi ? C'est pas le alif, parce qu'il s'attache à la lettre suivante. C'est le lam, l'équivalent de L. Alors, Mali. Mali, c'est un mot qui peut avoir trois sens, comme on le verra par la suite, mais retenons d'abord que Mali, c'est le nom d'un pays africain. Mali. Et après, pour finir cette ligne, Tali. Tali, là aussi, c'est un mélange entre deux mots vus précédemment, Tali, et qui a un sens, hein. Tali, ça veut dire suivant. Avec la deuxième ligne, les mots ont un sens. Alors, on reconnaît bien le premier, Mama. Ensuite, Nana, Nana, bon, c'est le titre d'un roman d'Émile Zola, par exemple. Tata, bon, ça, ce n'est pas vraiment utilisé par les Arabes, mais parfois les bébés appellent Tata une sœur ou une tante, etc. Après le tiret, il faut observer avec attention. Ya, Mama. Le ya, ya, c'est le vocatif. Les Arabes l'utilisent beaucoup pour signifier à quelqu'un qu'il est appelé, qu'on veut lui parler. Ya, Mama. C'est oh, maman. Ya, Mama. Après le tiret suivant, on a Mani, un mot qu'on a déjà vu à la première ligne, Mani, mais qu'on peut trouver dans d'autres mots. Alors, par exemple, si on ajoute une lettre avant qu'on prononce Yé, ça nous donne Yamani. Yamani, ça veut dire Yéménite. C'est une façon ancienne de dire Yéménite, on verra qu'il y a une variante plus courante aujourd'hui. Yamani. Si j'ajoute E, c'est une lettre qu'ils appellent Hamza, qui est portée par le alif, portée par le trait vertical, qui n'est pas la lettre ici, c'est juste un support. Et la lettre, c'est Al-Hamza, le E. Amani. Amani, c'est un prénom courant et qui a un sens, comme la plupart des prénoms arabes. Amani, ça veut dire des vœux, des souhaits. Amani. Et après, c'est un mot qui nous vient d'Europe. Almani. Almani, et on prononce Almani. On emphatise le L. Almani. Almani, ça veut dire allemand. À la troisième ligne, on observe qu'il y a, dans les quatre premiers mots, au milieu du mot, une lettre avec deux points en dessous. On a déjà vu ça, deux points en dessous, à la fin de chacun des mots de la première ligne. Ici, c'est au milieu. Et le trait a changé de forme, attention, parce que le trait peut varier entre la position initiale dans un mot ou dans une chaîne de caractères, le milieu et la fin. Et lorsque c'est isolé, ça peut changer encore. Alors le premier mot, c'est très simple à prononcer, Lille. Lille comme la ville du nord de la France. Lille. Lille, et du coup, le mot suivant, c'est Lili. Et on voit le I, qu'on appelle en arabe Ya, se présenter de deux façons différentes au niveau de l'écriture, mais c'est la même prononciation. Lili. Lili, ça veut dire Lillois. Et là, on a un renseignement très important. lorsqu'on ajoute i à la fin, on a indiqué le nom de l'habitant d'un lieu ou le nom de qui indique une relation. On appelle ça l'adjectif de relation. Par exemple, je prends en français, si je dis la science, pour dire que quelqu'un travaille dans les sciences, on peut dire qu'il est scientifique, ic, artistique. Mais en français, ça varie pas mal. Littéraire, sportif, par exemple. Alors qu'en arabe, ça sera toujours avec i. Donc pour les habitants du monde entier, de tous les pays, de toutes les villes, de toutes les régions, on ajoute i après le nom du pays. Donc par exemple, si je prends Tunis c'est la Tunisie, pour dire tunisien, c'est Tunisie. Portugal, el Portugal, en portugais, c'est Portugali. Le Japon, c'est el Japan. Un japonais, Yabani, etc. Alors, Lili, c'est Lillois. Donc, le troisième mot, c'est Nîmes. Nîmes, c'est une ville du sud de la France. Et donc, un Nîmois, c'est Nimi. Après, il y aura un exercice spécifique sur cet aspect. Et il faudra trouver le nom de l'habitant de plusieurs pays. On verra, il y a parfois un détail à observer. Mais c'est assez régulier et simple. Alors la suite, mime. Mime, c'est le nom d'une lettre. Il serait bon d'utiliser le nom de chaque lettre et ne pas dire me, te, etc. C'est mime. Mime, c'est la lettre qui prend la forme d'un rond. C'est assez petit. Et attention, il faut que ça soit en dessous de la ligne de base. Il ne faut pas faire la boucle au-dessus. Sinon, ça se confondrait avec d'autres lettres qu'on verra par la suite. Mime. Et si j'ajoute T avant, j'obtiens Temim. Temim, c'est un prénom. Et alors, le mot suivant, on peut le deviner. Si je prononce « yé » au départ, qu'est-ce qui me reste? Une seule syllabe, « min », donc ça fait « yémin ».« Yémin », ça veut dire « droite ». J'observe après le trait, donc on appelle quelqu'un, donc c'est forcément un prénom après « ya ».« Ya émin ».« Ya émin », donc « o émin ». La quatrième ligne commence par un mot déjà vu, « mama ». Le mot est repris avec quelque chose avant. Elle, mama. C'est l'article défini. Elle, mama, qui se compose d'un elif et d'un lam. Elif, lam, donc elle, mama. Et cet article est caractéristique de la langue arabe. Si on prend un livre arabe ou un journal arabe, on voit beaucoup de mots commencer comme ça. Ce n'est pas le cas dans toutes les langues qui utilisent l'alphabet arabe. Si vous prenez un journal iranien ou un livre écrit en farsi, c'est rare. Ça serait uniquement les mots qui sont arabes qui ont été intégrés par la langue persane. Ou alors une citation. C'est pareil pour le kurde ou pour l'ourdou. Et jadis, c'était vrai aussi pour le turc qui s'écrivait avec l'alphabet arabe. Donc, ça se prononce L. L, on ne prononce pas A pour le elif. Attention, on prononce L, mais on l'écrit comme ça. Et c'est universel par rapport au français. Donc, le, la et les s'écrivent pareil. Et se prononcent pareil. El mama. Le mot suivant, mal, c'est facile à deviner. Mal, qui veut dire de l'argent. Et donc, el mal, c'est l'argent. Et c'est un mot qui peut avoir plusieurs sens. Par la suite, on verra, ça peut même signifier les finances ou les biens que possède une personne, par exemple. Après le tiré, c'est un nom propre, el nil. Le Nil, c'est le nom d'un fleuve qui... El-Mim, El-Mim, c'est la lettre, une lettre arabe, celle qui est qui prend la forme d'un rond. El-Mil, El-Mil, alors c'est très intéressant, El-Mil, on l'utilise pas beaucoup aujourd'hui, mais El-Mil, bon, aujourd'hui, premier sens qu'on lui donne, c'est la distance. Utilisé en Angleterre et aux États-Unis, par exemple, ou dans les pays anglophones, El Mile, le mile. Mais c'était aussi une distance dans les premiers siècles de l'islam, c'était les balises, les routes principales étaient balisées avec cette mention du mile. Mais la distance n'était pas équivalente du mile que l'on connaît aujourd'hui. Mais il y a d'autres sens qui sont attribués à ce vocable dans l'arabe d'aujourd'hui, mais ça on le verra beaucoup plus tard. Le dernier mot de la quatrième ligne, c'est el-tin. Donc, tin, c'est la figue. El-tin, c'est la figue. Alors la prononciation du nom de fleuve, le Nil et la figue, peut-être que vous entendrez au début, parfois pour les besoins de l'apprentissage, El-Nil et El-Tin. Mais en réalité, il faut prononcer En-Nil, Et-Tin. C'est un phénomène phonétique qui fait que le lam de l'article cède la place à la première consonne du nom, et donc on prononce deux fois le nun pour ennil et deux fois le ta pour ettin. On trouve ça sous l'appellation des lettres solaires qui écraseraient le lam. C'est la moitié de l'alphabet qui se comporte comme ça. Ce n'est pas la peine de prêter trop d'attention à ce détail au départ, mais par la suite, il faut essayer de bien écouter ce qui est prononcé et d'essayer de faire pareil. La dernière ligne nous donne des mots qui commencent par une hamza. Amel. Amel, qui est un prénom courant. Amel, qui veut dire espoir. Un prénom de fille. Amel. Et lorsqu'on met l'article, il y a un détail intéressant. El-Amel. Il faut bien regarder comment ça s'écrit. Il y a une rupture dans le mot. Et pourquoi? Parce que l'hamza est porté par un alif et le alif ne s'accroche pas à la lettre suivante. D'où cette rupture. Et le alif se met dans une position penchée à l'intérieur du lam. El-Amel. Ce n'est pas un trait vertical comme d'habitude. Le troisième mot, elem, une douleur, elem, el-elem, la douleur. Aman, aman, aman et el-aman, c'est la notion de sécurité, la sécurité ressentie par la population, souhaitée donc, pas la sécurité imposée par les autorités. Et donc, pour dire mon espoir, et là, on découvre le possessif de la première personne pour mon, ma, mes. C'est universel en arabe. C'est le i à la fin, comme pour l'adjectif de relation. Mais ce n'est pas la même chose. Là, c'est un pronom personnel qui s'accroche à la fin du mot. Emeli. Emeli, c'est mon espoir. Elemi, ma douleur. Et mali, du coup, on découvre le deuxième sens. Mali, c'est à la fois le pays d'Afrique, mais c'est aussi mon argent, Mali. Quand on sait que le I final peut aussi créer une relation avec une référence, El Mal, c'est l'argent, donc Mali peut signifier financier. La suite de cette page est consacrée au nombre de 0 à 10. Donc là, il faut bien écouter l'enregistrement. Et on entendra cifre. Cifre, d'ailleurs, c'est le mot qui a donné le mot chiffre en français. Cifre, واحد, اثنين, ثلاثة, أربعة, خمسة, ستة, سبعة, ثمانية, تسعة, عشرة. Et il faut observer comment ça s'écrit chez les orientaux. Et tout ça, c'est des chiffres arabes. Alors, par commodité, on les appelle chiffres arabes. C'est ce qu'on utilise en Europe, enfin en Occident et dans le monde entier. Chiffres indiens pour les autres, mais en réalité, c'est les mêmes. Pour être honnête, on devrait tous les appeler chiffres indiens. Après, il y a quelques opérations de calcul. C'est utile de les écouter, de les répéter, de les assimiler. Donc, lorsqu'on dit « wahid zaid wahid yusawi ithnain », on apprend comment dire « plus ». C'est « zaid ». Et « zaid », par la suite, on verra que ça signifie « trop » ou « beaucoup ». « Yusawi », ça veut dire « égal ». C'est un verbe, etc. Donc, ça, ce n'est jamais mauvais de bien apprendre les nombres et on va les découvrir par étapes tout au long de ce premier tome.